Donc, aujourd'hui, nous continuons les messages dans l'Épître aux Romains. Donc, dans vos Bibles, c'est Romains chapitre 1, versets 16 à 21. Puis, quand on va faire la lecture, on va commencer avec le verset 14, juste pour entrer dans le sujet. OK? Donc, aujourd'hui, on aborde les sujets, les quatre évidences de l'existence de Dieu. Les quatre évidences de l'existence de Dieu. C'est les choses que vous pouvez dire à tout le monde. OK? Et aussi, nous allons parler des excuses des hommes pour ne pas accepter les évidences à l'existence de Dieu. Donc, pour vous rappeler, dans la première partie de ce chapitre, chapitre 1, Paul dit avoir reçu la grâce du salut par Jésus-Christ, par l'Évangile, et puis il a reçu le ministère d'être apôtre envers les nations, les païens. Et puis il a parlé aussi de son grand désir d'aller prêcher l'Évangile à Rome. Et ses prières dans ce sens-là aussi. Et c'est là que nous allons entrer tout à l'heure dans le texte pour aujourd'hui, mais je voudrais donner quelques explications au début. Donc, nous allons focaliser, OK, sur les évidences que Dieu a laissées, preuves suffisantes pour que chacun puisse le trouver. Il est là, il faut le trouver. Hein? La prochaine fois, on va parler des diverses façons que l'humanité toute entière et chacun en particulier se sont éloignés de Dieu. Donc Dieu est là, on peut le trouver, mais beaucoup de monde, presque disons, tout le monde, ne veut pas le savoir. Il ne veut pas trouver Dieu à cause de nos péchés en nous. OK, mais on va voir ça. Donc le verdict de Dieu est accablant, tellement évident est l'existence du Créateur que toute personne est inexcusable. On va voir ça ce matin. Dans Romains chapitre 1, verset 20, on va voir que les non-juifs, donc les nations, tout le monde, est inexcusable. Et aussi dans chapitre 2, verset 1, on va voir que les juifs sont inexcusables. Chez les juifs, chez les non-juifs, le cœur humain est identique. D'ailleurs, plus tard, Paul, ici dans l'Épître aux Romains, va utiliser l'argument que Abraham a été choisi pendant qu'il était encore païen et non juif. Et ça, c'est pour montrer toujours qu'il n'y a pas de distinction. Tout le monde est pareil. Les hommes péchent, ne connaissant pas la volonté de Dieu. Et les autres péchent, tout en connaissant la volonté de Dieu. Tous pêchent. Tous les deux sont éloignés de Dieu dans leur cœur. Chacun est perdu profondément dans les ténèbres morales et spirituelles. Donc, on va lire le texte biblique, Romains chapitre 1, mais on va commencer avec le 14, verset 14, mais le message, en fait, commence avec le verset 16. Romains chapitre 1. Et verset 14, je me dois, donc c'est Paul qui parle, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Verset 16, et c'est là que le message commence aujourd'hui. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu ne leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, je vais expliquer certains mots dans notre texte aujourd'hui. Donc, je recommence avec le verset 16, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors, ce mot, la puissance, signifie le pouvoir, la puissance, la force, le miracle même. C'est l'Évangile qui sauve. C'est l'Évangile et la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Après, on a ce mot « quiconque » qui veut dire « tout ce qui croit ». Quiconque croit, autant de monde qui croit, il n'y a pas de limite. Tous ceux qui veulent bien croire vont être sauvés. Le verset 17, « parce que en lui, donc dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu, donc la justice divine de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors ce mot « révéler » signifie enlever la couverture, divulguer, mettre en lumière, révéler. Donc, vous imaginez, vous avez quelque chose dans une boîte, vous ne savez pas c'est quoi, vous ouvrez la boîte, vous enlevez la couverture et c'est évident ce qui est dedans. Donc, c'est le mot apocalypto. D'où vient le mot? Apocalypse, n'est-ce pas? Donc, dans le dernier livre de la Bible, Jésus révèle, il divulgue, il enlève la couverture pour que nous puissions voir l'avenir. Okay? Mais attention à la signification réelle de ce mot, parce que la signification réelle, qui veut dire de révéler ou divulguer, n'a rien à voir avec l'utilisation actuelle en français. « Ah, mais c'est apocalyptique hein? », qui veut dire « catastrophe » ou quelque chose comme ça, « cataclysme ». OK, donc c'est pas l'utilisation tous les jours, c'est pas ce que veut dire tout simplement la révélation du Seigneur Jésus-Christ. OK? La colère de Dieu se révèle, et donc se révèle, c'est encore ce mot apocalypto. La colère de Dieu se révèle du ciel. Et ici, le ciel, c'est le troisième ciel, c'est la demeure de Dieu, c'est là où Dieu a son trône. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, premièrement, cette colère. La colère signifie, bien sûr, colère, punition, vengeance, indignation. Depuis toujours, Dieu dit qu'il y aura un jour de jugement. Il faut que ce jour arrive. Dans Deutéronome 32, verset 35, et aussi dans Romains chapitre 12 et verset 19, nous lisons « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, il nous dit de ne pas nous venger, parce que lui va le faire. Okay? Et puis dans Michée chapitre 5 et verset 14, nous lisons « J'exercerai, c'est futur, j'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations, sur les païens, justement, sur tous ces gens à qui Paul est apôtre, qui n'ont pas écouté donc le message de Dieu. Il y a ce mot impiété. Impiété signifie aussi irrévérence, méchanceté. Et là, c'est plutôt contre Dieu. Tandis que l'autre mot, injustice, signifie l'injustice légale, donc la qualité, ou l'acte, aussi l'injustice morale, donc le caractère de vie, okay? La blessure morale. Et dans ce second mot, on voit Bien sûr, c'est contre Dieu. Si on fait du mal à quelqu'un, c'est contre Dieu aussi. Mais c'est contre une personne. Donc, c'est contre une personne parce que la personne est faite à l'image de Dieu. Et donc, c'est contre Dieu aussi. Okay? Donc, l'impiété est contre Dieu, l'injustice est contre les gens et en conséquence, contre Dieu aussi. Après, on a ce mot. Donc, il y a toute une phrase, mais le mot en grec, c'est « retienne captive ». Donc, il y a le mot « retienne captive ». Donc, ces deux mots, c'est le même, c'est un seul mot en grec, « retienne captive ». Okay? Et donc, ça vient de ce mot qui veut dire « tienne ferme », »,« attaché ». Donc, c'est « caché ». Okay? Donc, il traduit « retienne captive ». L'idée, c'est de prendre captive la vérité et de la mettre dans un cachot, voilà, je mets dans un cachot, afin que personne ne la trouve. On ne veut pas que les gens sachent la vérité. Et ils font ça injustement, vous le lisez dans le texte. Le mot vérité, c'est le mot, la vérité morale, la vérité divine, ce qui est révélé à l'humanité. Maintenant, au verset 19, « car », et juste pour donner un petit commencement, ce mot « car » veut dire sur ce même thème de la suppression de la vérité. C'est un petit mot, ce n'est pas le mot « car » habituel, c'est un mot qui prend tout ça, il dit dans ce même thème que le verset 18 a parlé, la raison que les gens occultent la vérité, pourquoi ils font ça? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Donc, c'est tellement évident qu'on peut voir certaines choses concernant Dieu par nos yeux, par notre compréhension, qu'on doit agir pour suppresser si on ne veut pas que les gens croient en Dieu. Dieu le leur ayant fait connaître, et donc là, c'est Dieu le leur ayant rendu apparent. Donc, revenir sur ce mot « car », c'est un petit mot « car ». Ici, donc, ça signifie « sur le compte même que ». Ça, c'est dans le dictionnaire « sur le compte même que ». L'idée, c'est que l'existence de Dieu est tellement évidente que l'on doit être malhonnête pour nier son existence. Pourquoi? Puisque les indices de son existence sont si évidents. Il dit « comme à l'œil nu, on le voit ». Par crainte que les évidences ne convertissent le collègue à Dieu, certains biologistes les mettent en garde, mettent les autres biologistes en garde sur le besoin de lutter avec vigilance contre la tendance vers le théisme, c'est-à-dire la croyance en Dieu, puisqu'il y a dans la nature une présence surabondante de ce qui semble être conçu dans un but précis, donc le contraire absolu du hasard. Alors, il y a deux mots ici pour connaître. En français, vous avez un mot, connaître et connaître, mais en fait, c'est deux mots dans le grec. Okay? Le premier mot, connaître, est exprimé par cette phrase, c'est un mot qui est exprimé par une phrase, ce qu'on peut connaître. Donc, toute cette phrase, c'est un mot en grec, et signifie le connu, le reconnaissable. Et ça, c'est dans le sens de connaître un membre de la famille. OK? Ben, vous allez, oh, c'est ma soeur, c'est mon frère. Vous voyez? C'est dans ce sens de connaître un membre de sa famille ou quelqu'un parmi vos amis. Vous connaissez vos amis. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est le premier mot, connaître. Ça donne l'idée qu'on peut être familier, donc, connaître comme un membre de la famille, on peut être familier avec Dieu, avec le Dieu invisible. Hein? Dieu entretient des relations familiales avec ceux qui le souhaitent. Puis à la fin du verset, il y a le deuxième mot connaître, on traduit fait connaître, et cela traduit un verbe qui est différent, et ce second connaître vient du mot brillant. OK, ça, c'est bien différent que l'autre. Un, c'est le connu, le reconnaissable. L'autre, c'est ce qui est brillant. OK? Et donc, ça veut dire, la définition dans le dictionnaire, c'est clair, visible, apparent, public, manifeste. Ok, mais on traduit connaître, faire connaître. Donc l'idée, c'est que Dieu a rendu public son existence. Voilà. Mais que les gens essaient d'ignorer et même de cacher cette vérité. Au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alors, on a cette petite phrase, les perfections invisibles. Donc, le mot veut dire invisible, ce que l'on ne peut pas voir. Okay? Mais c'est un mot dans le grec et dans le neutre, donc c'est pas masculin, c'est pas féminin, c'est neutre, et c'est au pluriel. Donc c'est pour ça qu'on traduit les perfections invisibles, ou d'autres vont traduire les choses invisibles ou les aspects invisibles. On est obligé, avec le français, de rajouter un mot, parce que autrement, de dire les invisibles de Dieu, ça fait bizarre. Donc, il faut ajouter un mot qui définit un peu. Depuis la création, ok? Donc là, c'est une expression qui signifie à partir de la création ou la fondation du monde, ou depuis le moment de la création. Après, on a l'œil nous, se voit comme à l'œil, se voit comme à l'œil nous, donc c'est deux mots dans le grec. Et cela exprime cette idée étant compris ou sont clairement visibles. Se voit comme à l'œil nous, c'est clairement visible, comme si vous le regardez physiquement. En effet, depuis le moment de la fondation du monde, ou, si vous préférez, en raisonnant à partir de la création du monde, les aspects ou les perfections non visibles de Dieu, en particulier ces deux aspects éternels, donc sa puissance, il est éternellement puissant, et sa divinité, il est Dieu pour toujours, sont clairement visibles, étant compris par les œuvres de la création, les choses fabriquées, les choses qui existent, Dieu rendant toute personne sans excuse. Quand on voit ce qui nous entoure, eh bien, on est sans excuse de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Verset 21. Puisque, et c'est encore ce petit mot « car », mais pas le mot habituel, c'est celui qui reprend l'idée derrière. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc on a ce mot connu, c'est la forme verbe, c'est le verbe de l'autre mot qu'on avait un nom tout à l'heure, le verbe reconnaître ou arriver à connaître. Ok? Donc, si vous avez quelqu'un que vous rencontrez, ce n'est pas votre ami, mais si vous passez du temps, vous allez arriver à connaître cette personne et avoir cette familiarité avec cette personne. Donc, l'idée, c'est que, ayant pris connaissance de Dieu, ayant réalisé que Dieu existe, ou devenu conscient de son existence, c'est ça, ayant connu Dieu, eh bien, après, il est mort égaré, et ce mot-là veut dire devenu futile. Égaré veut dire rendu vain et stupide, vaniteux, perverti, moralement méchant ou en particulier idolâtre. Okay? Ça, on va voir la semaine prochaine comment l'humanité est devenue idolâtre. Il y a ce mot pour leur pensée. Ce mot parle d'un raisonnement, un calcul. Un mouvement de pensée, donc c'est un raisonnement, c'est un complot, et devient par la suite une contestation, une doute, un raisonnement et, comme il a dit dans la traduction, une pensée. On a le mot cœur, et le mot cœur, c'est le moi intérieur. Nous avons tous un cœur, mais ce n'est pas le pompe. Ce n'est pas celui-là. C'est ce qui nous représente à l'intérieur, notre volonté, nos pensées, nos sentiments. Et on a cette phrase sans intelligence. Et là, ça veut dire sans comprendre, inintelligent, sans sagesse, imprudent, sans discernement et moralement sans compréhension. Tout ça à propos du cœur. Donc, à bien comprendre, cette phrase ne veut pas dire que les gens ont la tête vide. Ce n'est pas du tout cette idée-là. L'intelligence dans le cerveau n'est pas en question. L'intelligence artisanale non plus. Ici, la Bible parle de notre cœur, que l'homme est séparé du Dieu saint. Nous, on est dans le péché, et Dieu est séparé de tout péché. Nous n'avons plus de boussole, ni morale, ni spirituelle, depuis la chute d'Adam. Nous sommes perdus. Et puis, on a le mot « ténèbres », qui veut dire « ténèbres »,« noircir »,« assombrir ». OK? Donc, je vais expliquer le passage, mais avant d'expliquer le passage, je vais vous montrer, maintenant que j'ai préparé le message, j'ai trouvé ce journal, j'ai trouvé intéressant, tout savoir sur l'univers dans ce petit livre de 150 pages. Vous voulez savoir quelque chose sur l'univers? Ben, c'est là. OK? Et je peux vous dire que moi, je ne connais même pas moi-même, je ne vous connais pas profondément. Je ne connais pas notre planète, je ne connais pas la Lune, le Soleil, notre système lacté. Je ne connais pas plein de choses, eux non plus. Et on va prétendre que dans ce petit livre, on peut connaître tout sur l'univers. On peut connaître l'espace-temps. L'espace-temps, c'est l'existence même. Okay? On peut connaître la gravité, le mouvement et l'orbite, on peut connaître le Big Bang, la Voie lactée, la formation des étoiles et l'origine des galaxies, tout dans ce petit livre. Et là, je vais vous dire que c'est un mensonge. Si vous allez à l'université pour n'importe quel sujet-là, vous allez devoir lire plein de livres. Ce n'est pas tout là. Et même là, à l'université, ce n'est pas tout là. Et là, c'est une illustration pour ce qu'on va voir dans l'explication du passage, OK? Donc, je relis versets 14 et 15, simplement pour nous mettre dans le contexte. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance, c'est la puissance et la puissance miraculeuse de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice divine de Dieu par la foi et pour la foi. On va revoir cette phrase tout à l'heure. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, comme je vous ai dit avec les définitions, l'évangile est la force miraculeuse même qui effectue le salut dans la personne qui croit. Si vous croyez, si vous n'êtes pas croyant ce matin, et si vous croyez, eh bien l'Évangile vous sauve. Et si vous avez déjà cru, l'Évangile vous a sauvé une fois pour toutes. L'Évangile divulgue, révèle la justice de Dieu, la justice divine de Dieu. Ceci n'est pas la justice humaine, comme vous savez, qui est souvent injuste, hein, la justice des hommes. Puisque tous sont perdus, Dieu met l'Évangile au niveau de tout le monde. Il faut simplement croire en Jésus-Christ. Il faut la foi en Jésus-Christ. Ceci veut dire qu'il faut simplement avoir confiance en lui. Dieu est juste, offrant le salut à toute personne, et cela uniquement par la foi seule. Jean nous dit dans son petit épître, que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Et du fait que Dieu nous justifie, donc qui nous sauve par la foi, et qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne la vie spirituelle par le Saint-Esprit, Dieu attend à ce que le croyant, sauvé par la foi bien sûr, eh bien qu'il progresse par étapes en augmentant sa foi, en la mettant à l'œuvre. Donc on a cette petite phrase, par la foi et pour la foi, qui veut dire sauvé par la foi et pour ou afin de vivre par la foi. Et donc la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. On est sauvé par la foi et on vit par la foi. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc on a cette colère qui est déjà présente, mais Dieu ne l'exprimera que dans son temps. Le jugement est certain et Dieu donc jugera les hommes pour leur péché contre lui-même et pour leur péché, comme on a vu tout à l'heure, contre les autres personnes. Donc, c'est là que je vais entrer dans cette question de l'évolution et tout ça. Certains de ces péchés, ce n'est pas tous les péchés, mais certains de ces péchés sont les manipulations qui ont pour but d'occulter l'existence de Dieu créateur, afin que les gens n'adorent pas Dieu. C'est ce que dit le texte. Qui retiennent injustement la vérité captive. C'est, ils suppressent, ils mettent dans la boîte pour que les gens ne connaissent pas la vérité. Eh bien, ces gens qui manipulent la population et occultent la vérité savent bien que Dieu est là et que Dieu est la vérité. C'est de leur plein gré et pour leur bénéfice égoïste qu'ils nient la personne de Dieu. Et c'est pour cela que c'est injuste. Car tout en sachant la vérité, ces gens empêchent les multitudes de trouver Dieu. Jésus a dit des pharisiens dans Matthieu 23 et verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même parce que vous ne croyez pas. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il les empêchez. » Comme dit le verset ici. Verset 19 et 20. Juste la première partie du verset 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc l'expression dans ce verset 19, pour eux, se traduit du grec littéralement en eux, dans la personne. Okay? Et ceci me rappelle la parole de Ecclésiaste chapitre 3 et verset 11, je ne vais pas lire tout le verset, mais il dit là, Dieu a mis dans leur cœur, dans le cœur des méchants, de tout le monde, la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu, l'éternel, hein, l'éternité, Dieu, l'éternel, a installé dans le cœur de chacun la pensée de l'éternité. C'est une évidence intérieure de son existence. Et cette pensée de l'éternité qui est dans nos cœurs s'harmonise avec les évidences extérieures nettement visibles dans la nature concernant la puissance de Dieu et la divinité de Dieu. On a l'évidence intérieure. Et on a les évidences extérieures. Ces évidences, donc, David parle dans Psaume 19:2, il dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et bon, tout le psaume concerne ce sujet-là, on ne va pas tout lire. Mais David parle ici de la divinité et de la puissance de Dieu, dans le psaume 19. Et puis Dieu a aussi révélé sa personne, encore plus, donc sa volonté, notre avenir et le chemin du salut dans ses Écritures. Quatrième évidence de l'existence de Dieu. Donc on a quelque chose dans le cœur qui parle de l'éternité, quelque chose en dehors qui correspond, qui devrait nous dire « Ah oui, Dieu est là !» Et puis si on veut bien connaître Dieu, eh bien on peut aller trouver dans ses Écritures des choses qu'il veut nous révéler. En dépit du fait que Dieu nous ait clairement révélé son existence, ceci n'empêche pas que les gens malhonnêtes nient l'existence de Dieu et le chemin du salut. Dieu donne à tous l'opportunité de s'approcher de lui. Certes, on est tous d'accord, Dieu est invisible. Oui, bien sûr, c'est évident, il est esprit. Pourtant, l'existence de Dieu, du Dieu invisible, cette existence est reconnaissable par ses effets. Autant que le vent invisible est reconnaissable par ses effets. Le Dieu invisible révèle sa puissance et sa divinité par les choses qu'il a créées, l'univers qu'il a fabriqué par sa puissante parole créatrice. Donc je pose une question. L'ordre dans le monde, dans l'univers, dans le système solaire, cet ordre rend-il témoignage au chaos dû à une explosion ou des ordres dus au hasard? Les cieux racontent-ils la gloire de l'évolution? Certainement pas. Ils rendent témoignage par leur ordre et leur beauté inouïe à un ordonnateur infiniment puissant, infiniment intelligent, infiniment capable. Et oui, je vais utiliser le mot un ordinateur infiniment divin. Je pose une autre question. Ne trouvez-vous pas contradictoire que les évolutionnistes ont une obsession de toujours présenter leur prétendue preuve du hasard par des schémas bien ordonnés? Puisqu'ils croient au hasard, ils devraient simplement prendre les os et jeter ça là devant nous. Voilà les preuves de l'évolution. Mais non, il faut vraiment mettre ça dans un ordre bien étalé. Depuis la création du monde, toute personne est capable d'observer la puissance et la divinité de Dieu si l'on veut bien considérer les évidences qu'on voit comme à l'œil nu. Le verset 20, la fin de verset 20 et 21. Ils sont donc inexcusables. Ça, c'est Dieu qui dit. Personne a raison. Tout le monde est inexcusable, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils sont donc inexcusables. Les hommes dans l'Antiquité ont mené une guerre contre Dieu en le remplaçant par les objets visibles. Ils les appelaient les dieux. Et nous allons voir ceci la semaine prochaine. Et même aujourd'hui, une grande partie du monde non chrétien et aussi pseudo-chrétien continue d'adorer les esprits et les morts devant les statues, les images, les icônes, etc. En revanche, donc les hommes qu'on dit modernes, ils mènent leur guerre contre Dieu en le remplaçant par les principes invisibles. L'homme moderne préfère diverses théories pseudo-scientifiques et des mythologies regroupées globalement sous la phrase « la théorie de l'évolution. Malheureusement, et de manière surprenante, de nombreux chrétiens se rangent du côté des athées dans la question des origines. Ça me surprend. Pourquoi les chrétiens veulent croire que Dieu n'existe pas, que voilà, ou que un Dieu qui existe a utilisé un système d'évolution pour nous faire venir à travers des milliards d'années? Pour moi, c'est étrange. Puisque la Bible dit le contraire, n'est-ce pas? Dans 6 jours, Dieu a tout fait. Donc, à se rappeler que dans les coulisses de toute théorie, parce qu'il y en a beaucoup, de toute théorie de l'évolution, se trouve toujours l'effort de faire disparaître Dieu. Curieusement, ce naturalisme philosophique est une expression d'une foi religieuse ou une mythologie. C'est ainsi que pour de nombreuses personnes, l'évolution joue le rôle de Dieu dans leur religion séculière. L'évolution déifiée, sans intelligence ni direction, par le hasard aveugle et avec suffisamment de milliards d'années, agit comme la force universelle qui accomplit toute chose, comme si l'évolution dans la nature serait le Dieu créateur. Les évolutionnistes athées maintiennent leur croyance dans une théorie de l'évolution ou dans une autre parce que le théisme est jugé inacceptable. Ils dogmatisent des causes matérialistes pour l'univers et la vie afin d'exclure le créateur de sa création. Un scientifique dans les domaines de la microbiologie et immunologie, donc un croyant dans l'athéisme, il a exprimé ses sentiments ainsi. L'absence d'un créateur, l'absence de Dieu et ma foi d'enfance, ma croyance d'adulte inébranlable et sainte. C'est une citation. Un autre scientifique, celui-là dans la génétique, il a dit, en dépit de l'absurdité absolue de certaines théories élaborées sur l'évolution, nous nous rangeons du côté de la science théorique parce que nous avons un engagement a priori aux causes matérialistes. De plus, ce matérialisme est absolu, car nous ne pouvons pas permettre un pied divin dans la porte. Ces hommes parlent de Dieu tout en reniant Dieu. Ils veulent, par choix moral ou immoral, ignorer le Créateur. Ils ne le glorifient pas pour sa création et ils ne lui sont pas reconnaissants, pas même pour l'air qu'il respire ou pour la nourriture qu'il mange. Par volonté morale, les pensées de leur cœur les égarent toujours plus loin de la vérité. Sans intelligence divine dans leur cœur, ces gens s'enfoncent dans les mensonges et les ténèbres spirituelles. Pour moi et pour vous, hein, j'espère que vous avez mis votre confiance dans le Dieu créateur, l'Éternel. C'est lui qui est venu ici-bas pour mettre en œuvre et pour accomplir l'Évangile. L'Évangile, cette puissance qui nous sauve. Ne détournez pas vos regards vers ce en quoi les gens du monde espèrent. Et c'est très vaste, hein, mais je vais donner quelques exemples. Ne regardez pas vers les esprits, les morts, les statues, les animaux, les arbres, les pierres précieuses, les planètes, les étoiles, le néant, etc. Non! N'adoptez pas non plus l'une des nombreuses théories modernes qui remplacent Dieu.
reconnaissez
votre Créateur
comme il attend de vous, en voyant ses traces dans la nature qu'il a créée.
Glorifiez-le,
rendez-le grâce et soyez reconnaissant envers lui en toutes choses. Amen.
Amen.